suite dans les idées, Sylvain Bourmont. Le 30 janvier dernier, la ministre du Logement, Emmanuelle Cosse, a annoncé devant des associations sidérées que le gouvernement refusait tout dispositif humanitaire à Calais. Ce n'est pas du tout ce que préconisait un rapport commandé en octobre par Bernard Cazeneuve, alors ministre de l'Intérieur, et rédigé par Jérôme Vignon, le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. Cette décision gouvernementale vise donc à tenter d'effacer toute présence de migrants à Calais. L'histoire de ce qu'on appelle la jungle de Calais semble bien être celle d'une volonté permanente d'effacement, comme si détruire les camps permettait de régler le problème. L'ennui pour ce mode de communication, c'est qu'il existe des journalistes, des chercheurs, mais aussi des dessinateurs de BD qui, eux, ne travaillent pas avec des gommes, mais plutôt avec des crayons. Lisa Mandel, bonjour.
Bonjour.
Et Yasmine Ouaga, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes Lisa Mandel, autrice de BD, de bande dessinée, et vous co-signez avec vous, Yasmine Ouaga, qui est sociologue chargée de recherche au CNRS, au laboratoire Triangle de l'École Normale Supérieure de Lyon. Vous co-signez ensemble donc les nouvelles de la jungle de Calais, un titre qui paraît dans une collection que par ailleurs vous co-dirigez toutes les deux aux éditions Casterman depuis quelques temps maintenant, une collection encore assez nouvelle qui s'appelle Sociorama et qui vise à vulgariser, on va voir si c'est le bon mot, en tous les cas à diffuser des démarches sociologiques dans un format qui est celui, ou un mode d'expression qui est celui de la bande dessinée. Alors ce livre que vous co-signez est un petit peu à part puisqu'il est dans une sous-série en quelque sorte de Sociorama qui s'appelle Terrain et qu'il est le produit d'une enquête de terrain, comme on en mène quand on est sociologue, comme aussi on peut après tout en mener quand on est auteur ou autrice de bande dessinée ou journaliste. Elle consiste à passer beaucoup de temps sur un terrain et puis ensuite à faire le récit de ce qu'on a vu. Alors, on va peut-être commencer par là, par Calais, puisque je plaçais cette émission dans l'actualité, cette actualité qui n'en finit pas, et votre livre chronique au fond cette jungle nous rappelle quelques éléments d'histoire, mais même si on s'en tient à la période durant laquelle pendant des mois vous avez arpenté les hectares de ce qu'on appelle la jungle de Calais, on se rend compte que c'est une histoire de destruction permanente organisée avec tantôt des bulldozers, tantôt des pelleteuses, puis parfois des incendies qui s'invitent, mais qu'il y a vraiment un espèce d'enjeu là dans l'érasement au fond de cette réalité sociale que vous êtes allé voir. Donc cette actualité n'a pas dû vous surprendre, Yasmine Ouaga.
Non, effectivement, et surtout que il y a des nouveaux développements encore cette semaine avec une plainte de la mairie contre le Secours catholique qui a voulu mettre en place des douches pour les migrants qui avaient la gale et ne pouvaient plus se doucher. Donc il y a toujours une actualité très forte à Calais et c'est quelque chose dans lequel on a été happé quand on est arrivé sur le terrain et qu'on a voulu décrire. Et la sortie du livre, quand on en a parlé aux réfugiés, aux migrants avec lesquels on avait travaillé, a été vraiment perçue comme un témoignage important de la mémoire de ce qui s'était passé. Ils nous ont dit, voilà, c'est important qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé à Calais. Les bénévoles aussi ont pris cet ouvrage à la fois comme un moyen de montrer ce qui, de comprendre, de montrer ce qui s'était passé, mais aussi d'attester de l'histoire. Historicité que cherche un peu à effacer toutes les tentatives du gouvernement pour disperser les campements.
Laisser des traces, donc, Lisa Mandel, et vous-même, vous êtes parfaitement consciente quand vous arrivez toutes les deux sur le terrain, qu'avant vous, il y a une longue histoire, et vous commencez d'ailleurs ces nouvelles de la jungle par un chapitre, en quelque sorte, d'histoire où vous vous faites raconter l'histoire du lieu.
Oui, alors après nous on est arrivé de manière plus candide, j'ai envie de dire, vraiment parce qu'on en entendait beaucoup parler dans les médias, mais c'est vrai que quand en fait ce prologue s'est fait en fait à la fin du livre parce qu'on avait aussi rencontré Aïdé Sabéran, donc qui est journaliste à Libération et qui a écrit un très beau livre, donc Ce qui passe,
paru à la Découverte il y a quelques temps.
Voilà, et où
déjà.
Elle raconte en fait elle a été là beaucoup au temps de Sangatte, et donc on s'est dit mais effectivement il faut recontextualiser, parce que ce qui est très important et ce que en fait on oublie vite parce qu'il y a une amnésie collective, bon, qui est liée aussi à notre société, mais on oublie vite qu'il y en a eu plein des jungles avant celle-ci et que celle-ci, c'en est une parmi d'autres qui est soit plus importante parce que les mouvements migratoires ont été beaucoup plus importants là ces dernières décennies, ces dernières années, mais en tout cas, il y en a eu plein, ça fait 20 ans que ça dure. Et donc ça, effectivement, quand on est arrivé à la fin du livre, on s'est dit on peut pas commencer le bouquin sans parler de ça, parce que c'est quand même essentiel de voir à quel point le serpent se mord la queue, à quel point c'est une boucle qui n'en finit pas de tourner, quoi.
Ce qu'on oublie par exemple, c'est vrai que c'était il y a 20 ans, l'appel des cinéastes pour les sans-papiers, il trouvait son origine dans un délit d'aide, une femme qui s'appelait Jacqueline Deltombe, qui habitait déjà à Calais, hein, qui avait hébergé un sans-papier. Et donc, c'était en 1997. Et aujourd'hui, on parle de ce qui se passe dans les vallées, dans la frontière italo-française. Mais finalement, tout ça est déjà très, très ancien. Et hélas, il y a peu de choses nouvelles, si ce n'est évidemment pour les gens qui, au quotidien, éprouvent cette situation.
Voilà, l'histoire se répète. Et les scènes que nous a décrites Aïdé Sabéran, suite à la fermeture de Sangatte et la dispersion des migrants qui étaient ensuite harcelé par la police, hein, pour surtout qu'ils ne restent pas dans la région. C'est exactement ce qui se passe à l'heure actuelle à Calais et également à Paris, où ils sont empêchés, ne serait-ce même que de se poser quelque part avec un sac de couchage, une tente. On leur brûle leurs affaires pour les faire déguerpir. C'est du coup une stratégie qui se répète, comme si on réinventait en permanence des nouvelles manières de gérer quelque chose que, en réalité, politique, on n'arrive pas à prendre en charge.
Alors, moi, j'aimerais comprendre, puisqu'on est dans une émission de sciences sociales, j'aimerais comprendre la particularité, la singularité de ce travail-là par rapport aux travaux dont on parle d'habitude et qui prennent la forme de livres écrits uniquement avec des mots, parfois avec quelques images, mais enfin, c'est assez rare. Comment se sont passées les choses ? C'est-à-dire, comment s'est passé ce qu'on appelle, en sciences sociales, le terrain ? Comment vous avez d'abord anticipé cette situation, toutes les deux ? Est-ce que le travail de terrain, compte tenu de l'objectif qui était de produire un album de bande dessinée, a été différent, je dirais, d'un travail de terrain qui aurait été celui qui était destiné, je dirais, à écrire un article dans une revue scientifique, par exemple.
Ça a été effectivement très particulier puisque bon, ça n'a pas été planifié. Hein. Déjà, en fait, on est arrivé ensemble suite à une invitation de l'appel de Calais adressée à Lisa pour venir témoigner de la situation à Calais. Moi, j'étais intéressée, je suis venue, je l'ai accompagnée sur un week-end. Et sur place, on s'est dit, il faut qu'on reste. On a des choses à dire et on a des choses à faire comprendre. Et la bande dessinée sera un bon moyen pédagogique de faire passer ce qu'on a envie de... le témoignage et les analyses aussi qu'on veut dire sur la situation à Calais. Et ça s'est transformé en blog, donc avec une immédiateté également qu'on connaît pas en sciences sociales. On ne réagit pas au jour le jour sur ce qu'on voit sur le terrain.
Il y a parfois, notamment sur des blogs, sur Hypothèse, des carnets de terrain qui peuvent être publiés. C'est rare, mais ça commence à arriver. Donc ça ressemblait d'abord à ça, c'est-à-dire au fond à un journal de terrain qui prenait une forme dessinée avec des mots et des dessins, donc, et qui a été publié sur le site du Monde pendant des semaines.
Oui, alors c'est un peu plus qu'un journal de terrain, puisqu'il y a aussi un objectif de faire comprendre des choses, donc avec des moments un peu de pause, expliquer ce que c'est que les accords de Dublin qui font que quelqu'un est obligé d'aller demander l'asile dans le premier pays européen dans lequel ses empreintes ont été enregistrées et qui bloque à Calais des centaines de personnes qui sont dans l'impossibilité de faire leur procédure de demande d'asile ailleurs. Je sais pas si tu veux, Lisa, rebondir sur le... Voilà, cette manière de concevoir
sur la manière
un blog
très concrète dont vous avez travaillé sur le terrain.
J'ai pas, en fait, quand ça a commencé, moi, j'ai pas du tout pensé en termes de pédagogie. C'est venu après. Dans un premier temps, ça a été, il se passe ça en ce moment. Du coup, aussi, tous les médias étaient braqués sur Calais. Nous, on y était. Et moi, je me suis dit, faut qu'on raconte. Et moi, ce que je sais faire, c'est de la bande dessinée. Après, la démarche la méthodologie, l'organisation, ça s'est vraiment développé après avec Yasmine dans un second temps. Mais dans le premier, je pense qu'il y a eu vraiment quelque chose d'hyper instinctif chez toutes les deux, hein, qui a été, on voit ça, il faut qu'on le raconte au monde. Et comment on le raconte au monde? Eh ben, pour le coup, on va dans un blog du Monde et on raconte ça. Et puis moi, voilà, la bande dessinée, c'est ma langue, c'est ma manière d'exprimer les choses. Et c'est vrai que c'est une façon de raconter qui est hyper immédiate et qui crée à la fois de la distance et de l'empathie. C'est-à-dire qu'aussi, les gens ont l'impression de... Voilà, souvent, les gens, quand ils lisaient le blog, ils nous disaient « on a l'impression qu'on était avec vous ». Et c'est vrai que la BD a cette capacité-là d'amener le lecteur avec nous. En fait, en tout cas, le ton qu'on avait, c'était aussi « nous, on découvre le lieu en même temps que vous, et ben on vous raconte ce qu'on voit ». Et au fur et à mesure, ben, on se renseigne et effectivement, on fait un travail un peu plus creusé, mais... Au départ, c'était vraiment ça, quoi.
Donc, ça veut dire, Yasmine Boiga, que la prise de notes, elle est la même, au fond, quand on fait un travail de sociologie classique. Qu'en est-il des images? On voit à un moment, je ne sais plus, c'est plusieurs fois, que vous avez un appareil photo, par exemple. Est-ce que c'est plus facile d'avoir un carnet sur lequel on dessine plutôt qu'une caméra ou un appareil photo?
Alors, en fait, on a pris très peu de photos au début. Hein, il y avait cet effet un peu de nouveauté, notamment quand on est arrivé, qu'il y avait tous ces lieux qui ont été mis en place par des bénévoles, où il y avait, on me voit en train de prendre en photo des toilettes chimiques, mais il y avait aussi un théâtre qui était un grand dôme, il y avait une école, enfin, il y avait des endroits un peu inattendus. On s'attendait pas à voir dans un camp de réfugiés ou dans un bidonville de ce genre de service public, en fait. Et ça a suscité une certaine curiosité qui était très partagée, aussi bien par les bénévoles que par certains réfugiés eux-mêmes qui n'hésitaient pas à prendre eux-mêmes en photo des lieux du bidonville. Mais de manière générale, on a peu utilisé la caméra et l'appareil photo parce que prendre en photo des gens peut être perçu comme menaçant pour eux parce qu'il y avait beaucoup de journalistes, la diffusion des images peut nuire à une personne qui peut être identifiée comme ayant été à Calais alors qu'elle veut ensuite aller en Angleterre.
Il faut se rappeler qu'un des enjeux des autorités, c'est d'identifier au maximum. Voilà. On va essayer de récupérer les empreintes, par exemple, des gens en échange d'un hébergement. Ça, on le comprend très bien en vous lisant.
Et en plus, ils ne veulent pas forcément que les images soient diffusées à leur famille, à qui ils ne disent pas qu'ils sont dans un bidonville. Hein. C'est quand même une position qui est humiliante. Et à l'inverse, le fait de dessiner n'est pas du tout perçu par ces gens comme étant une menace. Et au contraire, il y avait un certain attendrissement, en fait, un amusement. Vous voyez, des caricatures qui sont faites ils désignaient ça comme des dessins comme des caricatures, mais plutôt sympathiques, et ça nous attirait des bonnes relations sur le terrain. Mais Lisa dessinait pas sur place. Moi, j'avais mon petit carnet.
Oui, c'est la question que je voulais vous poser, Lisa Mandel.
En fait, je devais réagir très vite. On vivait une scène la journée. Le lendemain matin, moi, je la dessinais. Donc, c'était très frais dans ma tête. Et le fait de pas dessiner, en fait, ça mettait un filtre naturel qui faisait que j'allais aller. Le lendemain, j'étais déjà à l'essentiel. Bon, j'aurais attendu une semaine, j'aurais pu plus raconter l'histoire. Mais en tout cas, vu les délais qu'on avait, ça allait très bien. Et donc, moi, en fait, je mémorisais, voilà, je photographiais les choses et puis après, je retranscrivais. Enfin, on voit, mon dessin est quand même très simple. Je retranscrivais plus des ambiances que des choses hyper précises. Et par contre, Yasmine prenait des notes. Et donc, l'un dans l'autre, on arrivait à faire des notes qui se tenaient, qui avaient quand même un peu de texture et de consistance. Et en même temps, qui étaient quand même justes, puisqu'elles avaient été mémorisées.
Et sur le plan de la recherche, enfin, pour moi, qui suis dans ma pratique de sociologue attachée aux méthodes ethnographiques, donc d'immersion sur un terrain, en faisant attention non pas seulement à ce que les gens disent, mais à la manière dont ils se tiennent, à l'environnement matériel également, etc. Du coup, c'était très enrichissant de travailler avec Lisa, qui faisait très attention aussi à tous ces petits détails. On est dans un restaurant, quelle est l'ambiance, ces restaurants de la jungle où des bénévoles viennent manger, aussi bien des migrants viennent s'abriter de la pluie en regardant des films de Bollywood. Et ça permettait de situer une ambiance, de voir qu'est-ce qu'on fait, comment ce lieu est aussi un espace de sociabilité. Et ça enrichit beaucoup le regard.
Donc il y a ces ambiances, il y a les informations, il y a aussi le côté, vous le disiez tout à l'heure, un petit peu fiche de présentation, un peu didactique d'un certain nombre de questions techniques. Qu'est-ce que c'est que l'asile? Qu'est-ce que c'est que ce type de centre par rapport à d'autres? Parce que c'est vrai que c'est aussi une jungle administrative, au fond, à laquelle on est confronté dans ce type d'endroit. Et puis aussi, les voix, il y a aussi beaucoup de dialogues. Donc j'imagine qu'il a fallu capter ces paroles et leur trouver leur tonalité chaque fois.
Oui, bah tout à fait. En plus, souvent c'est traduit de l'arabe, puisque donc Yasmine parle arabe et pas moi. Donc en fait, c'était Yasmine qui me racontait en essayant d'être le plus précise possible, et moi du coup qui retranscrivais les scènes, ou des scènes où j'étais témoin aussi, évidemment. Mais oui, effectivement, faut trouver un ton, une voix. Après, ça c'est mon travail. Et là, pour le coup, moi j'étais dans mon travail qui est aussi, quand on est auteur de BD, on est dialoguiste. Enfin, en tout cas, moi c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup travaillé dans mes histoires, c'est les dialogues. Donc là, pour le coup, c'était à moi de rendre aussi les discussions vivantes. Et voilà, mais Yasmine, mais aussi souvent très bien raconté, parce que si on a un mauvais conteur, on peut pas après retranscrire très bien non plus.
Alors, au fond, mais quelle est la différence avec un travail de journaliste? Parce que moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est comment on peut comparer, au fond, des modes de connaissance, d'un côté le journalisme, de l'autre la sociologie ou les sciences sociales, et puis enfin la bande dessinée ou la littérature, dans certains cas, ou le cinéma, enfin, qui peuvent s'emparer d'un même objet. On sent une proximité forte, non seulement parce que vous avez publié sur le blog du Monde, hein, d'un journal, aussi parce que le livre est encadré par deux figures de journalistes qui sont pas n'importe lesquelles, Idée Saberan, qui a cette longue expérience dont vous parliez, puis Marilyn Baumard, qui fait un travail remarquable dans les colonnes du Monde depuis maintenant des années sur cette question des migrants. Donc c'est vrai que moi j'y ai vu une très forte proximité avec le travail journalistique.
Oui, oui, et puis c'est une question qu'on m'a souvent posée. Moi j'ai pas cherché à me distinguer d'un travail de journaliste, par contre j'ai bénéficié très fortement de mon statut de chercheuse et de la moindre contrainte que cela représente, c'est-à-dire en termes...
Notamment de temps.
Voilà, en termes de temps, en termes de rythme de travail, j'avais pas à rendre des papiers, à rendre des comptes à une rédaction, et j'ai pu passer du temps en immersion avec aussi bien les migrants que les bénévoles, être invité aussi aux conférences de presse organisées par les pouvoirs publics, parce que finalement eux, de leur côté, j'étais identifiée comme journaliste, qui en fait a ouvert des portes. Du côté des bénévoles, j'étais pas identifiée comme journaliste, qui a ouvert des portes également. Donc j'ai pu un peu jouer. Enfin, on a pu toutes les deux jouer sur cette ambiguïté, et j'ai pas véritablement cherché, moi, dans mon positionnement, à me distinguer du journalisme, même si, à présent, ce que j'essaye de faire comme travail d'élaboration scientifique se tourne plus vers un public académique.
Donc ça veut dire qu'à côté de ce livre que vous avez donc publié avec Lisa Mondel et Noël Algin, que vous envisagez aussi des productions plus conformes, je dirais, aux standards académiques, qui prendront la forme d'articles ou je ne sais pas, d'un ouvrage éventuellement, à partir du même terrain.
Oui, parce que j'ai envie aussi de m'inscrire dans le débat, dans la réflexion scientifique sur les questions des politiques migratoires, des réfugiés. Est-ce que c'est qu'un camp de réfugiés? Parce qu'en fait, ce lieu de Calais était vraiment très intéressant. C'est à la fois, ça juxtapose un bidonville très auto-organisé, mais avec une intervention absolument inédite, en fait, d'associations, d'ONG et de bénévoles freelance.
Beaucoup de Britanniques d'ailleurs.
Beaucoup de Britanniques. Et à côté de ça, deux camps organisés par l'État, donc un camp de containers et un lieu qui fait à la fois accueil de jour et centre pour femmes et enfants, et qui ont des modes de fonctionnement très différents. Et donc qui permettent de réfléchir à qu'est-ce que c'est que le camp, en fait. Et comme il y a une littérature scientifique aussi sur cette question, moi j'avais envie de contribuer à cela, voilà, de
oui,
m'insérer là-dedans.
Aux travaux de Michel Agier notamment.
Avec qui je travaille sur une ANR sur cette question.
Voilà, il y a
question.
Un groupe de chercheurs qui un grand programme de recherche sur les questions de migration et de camp. Lisa Mondel, c'est la première fois que vous trouviez dans une démarche à ce point liée à l'actualité.
Oui, oui, à ce point, en immersion, oui, ça m'était jamais arrivé. Après avoir fait des bandes dessinées qui avaient un caractère un peu plus sociologique, ça m'était arrivé. Après, j'ai tenu un blog il y a vraiment quelques années qui s'appelait Libre comme un poney sauvage, et où j'ai raconté notamment mon voyage en Argentine et tout ça, mais ça restait du loisir. C'est-à-dire que je parlais un peu des problématiques, mais c'était vraiment ludique. Et c'est vrai que là, oui, c'est la première fois que je me suis retrouvée complètement immergée dans un... Enfin, j'avais fait, ceci dit, j'avais été interrogée des associations à Marseille sur les... C'était un centre qui s'occupait des réfugiés qui avaient eu des traumatismes de guerre. Donc j'avais déjà fait des travaux comme ça, mais c'était resté très très ponctuel sur une après-midi. C'est vrai que ça n'avait pas cette portée-là. Oui, j'ai eu un gros choc là cette année, enfin en 2016 en tout cas.
Alors je rappelle ce livre, Les Nouvelles de la Jungle, que vous co-signez, Lisa Mondel et Yasmine Boiga, paraît chez Casterman, dans cette collection Sociorama que vous dirigez. Mais c'est un livre un peu atypique par rapport aux autres jusqu'à présent, puisque c'est un livre de terrain, donc c'est un livre qui part de rien, hein, c'est vraiment votre travail qui est arrivé à ce livre. Et jusqu'à présent, dans la collection Sociorama que vous avez créée, c'était en fait des albums de bande dessinée qui étaient tirés de livres ou d'enquêtes déjà existantes et produites par des sociologues, et qu'il s'agissait finalement d'adapter, ou je ne sais pas quel est le mot que vous utilisez, au genre de la bande dessinée.
Démarche vraiment différente, puisque donc les nouvelles de la jungle, c'est une chronique d'une enquête de terrain où il n'y a pas encore les résultats sociologiques. En fait, il y a un regard de sciences sociales pour essayer d'informer le lecteur, mais on ne peut pas dire qu'il y a des résultats élaborés. Tandis que pour le reste de la collection Sociorama, on est parti vraiment d'enquêtes réalisées, publiées pour la plupart du temps.
Sous forme de livres.
Sous forme de livres, parfois
exemple,
de thèses.
Je vais donner des exemples deux livres dont on a eu l'occasion de parler à la suite dans les idées. Le livre de Marlène Banquet sur le métier de caissier dans les supermarchés, et puis celui de Mathieu Trachman sur la fabrique pornographique. Donc c'est deux ouvrages qui sont des ouvrages qui prennent une forme classique de sociologie. Il y en a un autre à partir d'un travail sur la banlieue du 20h, qui est donc comment une rédaction traite des questions de banlieue, une rédaction de chaîne de télévision. Et donc à chaque fois là, il s'agissait de confier à un dessinateur le soin de traduire en album BD un travail scientifique.
C'est un peu différent d'une BD didactique, c'est-à-dire qu'en fait l'idée c'était surtout de créer une fiction autour d'une enquête sociologique. Donc c'est-à-dire finalement rendre une histoire qui soit intéressante à lire, où il se passe des choses, mais dans un contexte sociologique entre guillemets juste, le plus juste
alors,
possible.
Par exemple, parce que c'est vous qui avez donc signé La Fabrique pornographique à partir du livre de Mathieu Trachman, comment vous avez procédé, Lisa Mondel?
Bah alors en fait on a une méthodologie quand même assez carrée. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai lu l'enquête de Mathieu, que ensuite on s'est rencontrés pour parler de ce que lui avait voulu raconter à travers cette enquête et de son angle, et ensuite j'ai proposé une histoire en accord avec Mathieu, et on en a rediscuté pour avec des personnages, voir à travers les personnages que je développais, est-ce que les problématiques étaient bien développées. On a parce que c'est quand même une thèse, une enquête sociologique est longue, on est obligé quand même de la résumer en quelque sorte en BD. Donc c'est trouver à quels points sont les plus importants et qu'il faut développer.
Il y a des parties pris,
puis il y a des choses qu'on va choisir de mettre un peu plus de côté. Là, notamment dans la fabrique pornographique, c'est beaucoup l'intro avec l'historique qu'on a un peu mise de côté. Et donc à partir de là, moi j'ai des personnages quand même, en général, donc ce sont des livres qui sont choisis pour leur portée aussi ethnographique, si je me trompe pas. Donc où il y a beaucoup d'enquêtes de terrain et beaucoup d'entretiens. Donc moi, en fait, ce que j'ai fait là, dans ce cas-là, c'est que j'ai pris des personnages interviewés, des enquêtés, et que parfois je les ai fusionnés pour en faire qu'un seul quand il y en avait trois qui se ressemblaient un peu, et j'ai essayé de dégager des personnages clés qui pouvaient représenter à peu près le milieu du travail pornographique. Donc il y a un jeune acteur qui débute, un producteur aguerri, une jeune actrice qui rentre par le biais du jeune acteur. Voilà, donc on comprend un peu les logiques de travail, logiques capitalistes.
Et comment quel dialogue se noue avec l'auteur du livre? Vous le rencontrez au début, mais après vous continuez à...
Oui, après régulièrement il est présent en fait tout au long de l'élaboration du livre en tant que consultant, plus qu'en tant que co-auteur. C'est-à-dire que lui, il a déjà son objet qui est son livre, et par contre on le consulte à chaque évolution. Par exemple, quand on passe à du synopsis au storyboard, quand le storyboard, avant qu'on le mette au propre, le sociologue il le lit, et tout ça plus un comité scientifique composé de quatre sociologues qui aussi arrive à chaque étape clé de la conception du livre pour donner ses retours et permettre le plus de rigueur scientifique possible. Après, sachant que c'est quand même une fiction. Donc
Alors, je voulais citer d'autres titres. Il y a aussi une BD signée Claire Brault qui est tirée d'une enquête de Nicolas Jounin, non pas son livre sur l'enseignement, son travail avec ses étudiants de Paris 8 dans le 8e arrondissement, mais son enquête précédente sur les travaux publics, enfin sur les chantiers, sur les ouvriers du bâtiment. Il y a aussi un livre, alors là, on est dans le sens inverse de Mélanie Gourarier, Séducteur de rue, parce qu'en fait, je crois que son livre va paraître aux éditions du Seuil dans quelques semaines, La BD a précédé en fait la publication du livre scientifique.
Oui, on a travaillé à partir de sa thèse, effectivement. Enfin, non, on a travaillé à partir de sa thèse. Effectivement. Et si je peux juste revenir sur le travail du comité scientifique qui est à l'origine en fait de l'idée de Sociorama, c'est cette association qu'on a créée avec des sociologues qui aimaient à la fois l'ethnographie et la bande dessinée. Donc il y avait Marianne Blanchard, Julien Gros, Mathias Tura et moi, et on avait envie de faire ce travail d'adaptation, et avec Lisa Mondel on a décidé que ce serait une adaptation via la fiction pour que ce soit un album autonome, et qu'en même temps il faille restituer des résultats d'enquête. Donc tout notre travail de comité scientifique, c'est de s'assurer que l'idée qu'on veut montrer sur un univers social va transparaître à travers la narration. Donc c'est un équilibre assez délicat à trouver, hein, qui fait l'objet de longues discussions, où on essaye à la fois que ce soit agréable à lire, qu'on soit pris dans une histoire et qu'on découvre vraiment un univers social, et qu'on puisse apprendre des choses sur les logiques d'une organisation, les rapports sociaux, les rapports de domination et la manière dont vont se créer aussi des formes de statut ou d'identification dans ces univers sociaux, univers professionnels.
Je prends l'exemple du volume La banlieue du 20h, donc, qui est un livre de Elka Rava et qui s'appuie sur une enquête de Jérôme Berthaud qui avait paru chez Agone. Et en fait, là par exemple, on a les personnages apparaissent sous forme de fiches avec des caractéristiques sociales. Donc on retrouve là une manière de caractériser au fond des acteurs sociaux assez classiques. On a la profession des parents, on a le revenu mensuel, etc. Ce qui, finalement, s'insère là aussi de façon qui peut être classique dans certaines bandes dessinées où certains personnages peuvent être présentés comme ça de façon sommaire, comme un casting au début. C'est une chose qui existe dans l'histoire de la bande dessinée, Lisa Mandel. Mais là, on voit bien se rejoindre une logique de recherche sociologique et puis une logique narrative qui est assez familière à la bande dessinée.
Tout à fait. Donc, en fait, la plupart du temps, on a essayé d'éviter le plus possible tout ce qui était trop didactique. Donc, c'était si on peut expliquer une information par l'action, on le fera plus que par une fiche. Là, il se trouve que dans le livre de Elka Rava et Jérôme Berthaud, en fait, c'était vraiment nécessaire parce qu'il y avait énormément de personnes et tout le monde était dans le même lieu, à travailler dans le même lieu. On les voyait pas tellement en dehors du travail. Donc, c'était très difficile d'amener leurs origines sociales et leurs professions en dehors de ces fiches. Mais par exemple, dans la fabrique pornographique, c'était facile de montrer l'acteur porno qui est vigile dans un supermarché. On le montre en vigile, on a compris à peu près d'où il vient, on voit chez lui, on comprend qu'il habite en banlieue. Donc, tout ça, c'était, voilà, quand on peut le montrer par la narration, on le fait. Mais on peut pas toujours.
Alors, j'imagine qu'il y a plein de titres au programme, parce qu'il faut un peu de temps pour adapter. Vous avez l'embarras du choix, ou j'imagine que certains livres de sociologie sont aussi s'y prêtent mieux que d'autres. Donc, comment vous procédez ?
On privilégie vraiment les enquêtes ethnographiques, donc des enquêtes récentes plutôt, et qui ont beaucoup de matériaux de terrain. On s'est posé la question, est-ce qu'on allait se lancer dans l'adaptation d'enquêtes qui se basent davantage sur des matériaux quantitatifs, mais ça, voilà, c'est plus complexe. Et donc, on privilégie davantage l'enquête de terrain et des sujets qui peuvent éclairer la société, nous apporter apporter aussi au débat public un enjeu politique dans le choix des sujets.
Merci Yasmine Boiga, merci Lisa Mandel. Je rappelle le titre donc de votre livre, Les Nouvelles de la Jungle. Il paraît chez Casterman dans cette collection que vous co-dirigez, Sociorama. On trouvera les références bibliographiques non seulement de ce livre, mais de quelques autres de la collection sur la page de la suite dans les idées. Vous pouvez réécouter ad vitam aeternam cette émission que vous pouvez également télécharger en vous abonnant au podcast. C'était la suite dans les idées. Sylvain Bourmeau, attaché de production Catherine Denet, à la technique Claude Niort, à la réalisation Jean-Christophe Francis. Et dans quelques instants, c'est Étienne Klein que vous retrouvez pour sa conversation scientifique sur l'antenne de France Culture.